Bonsoir. On jouera peut-être la première prolongation. En tout cas, l'abbé Apollinaire Malou Malou, président de la commission électorale indépendante, a déposé hier devant les deux chambres du Parlement une requête en ce sens. L'avant-projet de constitution n'est pas encore adopté à l'Assemblée nationale, mais des voix s'élèvent déjà pour que la copie soit corrigée. Cette mouture ferait la part trop belle au futur président de la République, un déséquilibre jugé dangereux, par exemple par le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de maintien de la paix. Un gouverneur suspendu, un autre épinglé par la commission de l'éthique et de la lutte contre la corruption, en toile de fond des malversations financières portant sur plusieurs millions de dollars américains. La semaine aura été donc marquée par les affaires Boulaïmou et Tchatcha Ditumba. Pour parler de tous ces sujets, le même panel que la semaine dernière, depuis Bukavu, la capitale du Sud Kivu, nous aurons M. Eric Kajemba, journaliste à Radio Maria, que je salue. Bonsoir Eric.
Bonsoir et bonsoir à tous les auditeurs.
Voilà, et présent dans ce studio de Radio Capi, M. Benoît Cambéré de la revue Renette, que je salue. Bonsoir.
Bonsoir Paul.
Également dans ce studio avec nous, M. Félix Kabouzi, directeur de publication du journal La Référence Plus. Bonsoir.
Bonsoir Paul.
Voilà, c'est donc parti pour une première prolongation. En tout cas, on croit que ça va se passer comme ça parce que hier, le président de la commission électorale indépendante a déposé une requête dans ce sens devant les deux chambres du Parlement, au Sénat et l'Assemblée nationale. Eric Kajemba, vous pensez que c'est déjà parti pour cette première prolongation?
Oui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que c'est parti pour une première prolongation, parce que on l'a dit la semaine passée, techniquement, il est apparu que c'est difficile justement qu'on fasse des élections dans les délais, c'est-à-dire le premier délai relatif, c'est-à-dire au 30 juin. Et donc cette requête est le signe manifeste justement qu'on est en train d'aller vers la prolongation. Et nous pensons que cette requête était importante justement pour fixer certains esprits parce que on se disait officiellement il n'y avait rien qui se faisait et je pense que ça pourrait peut-être faire baisser la tension.
Oui, M. Félix Kabouzi, vous pensez que ce sera le but en or ou bien il faut aller à toutes les prolongations?
Bon, je crois que l'abbé Malou Malou doit avoir certainement sollicité d'abord les 6 premiers mois qui sont qui sont prévus dans la Constitution. Mais je crois qu'au-delà de ce que nous pourrions appeler théoriquement la prolongation, ce qui serait intéressant de voir, ce sont les motivations. Comment l'abbé Malou Malou motive sa démarche pour solliciter cette première prolongation, puisque dans la Constitution, il est dit qu'il ne peut solliciter de prolongation que pour des raisons essentiellement liées à l'organisation technique de l'élection. Donc il faudrait que nous retrouvions effectivement dans les motivations de sa requête des éléments techniques qui montreraient que la commission a été techniquement dans l'impossibilité d'organiser les élections durant les deux premières années de la transition. Ça c'est de deux. Il faudrait aussi qu'on voit quelle orientation va prendre le débat au sein des deux chambres du Parlement. Est-ce que le débat va confirmer qu'il y avait des raisons spécifiquement techniques ou on va trouver d'autres raisons. Donc je crois que ce sont les deux paramètres, à mon avis, qui seront importants pour savoir si effectivement il y aura prolongation sans problème. Voilà.
Oui, Benoît Cambéré, nous ne sommes pas dans le secret des dieux, mais on sait déjà que M. l'abbé Apollinaire Malou Malou a déposé devant l'Assemblée nationale sous pli ouvert et à l'Assemblée, au Sénat, sous pli fermé, sa requête, qui devait contenir des motivations. Est-ce que vous sentez qu'il a su motiver?
Ben, j'imagine, parce que, bon, avant d'aller déposer cette requête à l'Assemblée nationale, M. l'abbé Malou Malou a tenu une conférence de presse, mais au cours de la conférence de presse, il n'a pas donné la teneur des motivations de sa requête. Nous espérons que quand les deux bureaux du Parlement se seront réunis, on aura, mais comme l'a dit Eric et comme l'a même fait souligner Félix, c'était prévisible. Et même Paul, quand tu parles de la première prolongation, moi je me demande si vraiment on peut parler de la première prolongation. Moi je parlerais tout simplement d'une prolongation. Parce que, à voir, bon, techniquement, quoi, il y en a qui ont dit que c'est tard, qu'à 2 mois de la date, la fin officielle, hein, la fin légale qui est dans le délai constitutionnel, 24 mois, que, en fait, je ne sais pas si on peut spéculer, n'eût été ce qui s'est passé en janvier, peut-être qu'il aurait mieux valu qu'il présente déjà, parce que ce sont les mêmes raisons, j'imagine, hein, qu'il présente déjà ses raisons dès le mois de janvier. Ça donnerait le temps aux gens de voir. Mais maintenant, à 2 mois, prenons l'hypothèse qu'il demande 6 mois. Moi, sincèrement, je ne vois pas en 6 mois si le reste, ce qui reste à faire peut être fait. À titre d'exemple, j'ai posé la question lors, bon, je n'ai pas eu de réponse, mais je crois que je l'aurai à la prochaine conférence de presse. Supposons que le peuple congolais rejette le projet de constitution. On est parti pour la gloire.
Oui, Eric Kadiemba, en tout cas pour ceux qui donnent de la voix, notamment au sein de l'opposition politique non armée, ils estiment que si l'équipe actuelle n'a pas su mettre en mouvement le processus électoral en 24 mois, il ne saura pas le faire en 36 mois. Est-ce que vous pensez qu'il y a du vrai dans ce que dit ceux qui donnent de la voix pour que on fasse le haut toit que j'y me mette?
En 36 mois ou en 6 mois?
Il y a d'abord les 24 mois et puis 6 fois 2, ça fait 12, ça fait 36.
Enfin, je pense que avant qu'Eric me réponde, il faut qu'on exclue déjà les 24 mois. Il faut plutôt parler de 6 fois 2 éventuellement dans les 10.
Justement, Eric, vous pensez que dans les 6 fois 2, il y a lieu d'espérer?
Oui, bon, il est question justement qu'il y ait la volonté politique, on en a parlé la fois passée. Si on met beaucoup de volonté politique, qu'on essaye de ne pas faire la constitution, disons, taillée sur la mesure des composants, des entités ou des individus, peut-être qu'on va y revenir plus tard. Je crois que si on met le boucher double, c'est bien possible que dans les 12 mois, on puisse y arriver. Mais je pense que, enfin, on n'a pas encore suivi la motivation qu'a présenté l'abbé Malumalu, mais on s'est dit, si ce sont des motivations d'ordre technique, d'ordre matériel, etc., bon, il faudra être réaliste et on risque d'aller vers les 12 mois et c'est sûr que ça ne sera pas facile, mais il faut vraiment qu'on mette les bouchées doubles, comme j'ai dit, il faudrait que chacun mette la main à la pâte pour que justement on y arrive. On sait que ce n'est pas facile, mais c'est possible avec beaucoup de volonté politique. Mais si on passe le temps encore à se chamailler, à renégocier, sûrement qu'en gros on va bousiller le temps. Et on sait combien de fois dans cette transition on a perdu de temps, des fois pour des petites choses. Et donc il faudra essayer de prendre une démarche plurielle et c'est possible qu'on y arrive. Mais ce n'est pas facile, il faut beaucoup de volonté.
Oui, Félix Kabouzi, le comité international d'accompagnement de la transition n'a pas attendu de connaître ce qu'il y a dans les motivations de M. l'abbé Malumalu. Et déjà, il demande au gouvernement ainsi qu'au Parlement de tout faire pour faciliter la tâche à la commission électorale indépendante afin qu'elle puisse mieux accomplir sa tâche. Vous pensez que c'est un chèque en blanc que l'on donne à l'abbé Malumalu?
Non, 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 je ne crois pas. Je pense que le SIAT est à Kinshasa et les membres du SIAT suivent tout le débat politique en fait autour de la prolongation ou de la non-prolongation. Je pense qu'ils ne vont certainement pas donner un chèque à blanc. Il s'agit, il me semble, de pousser le gouvernement, de pousser le Parlement, en tout cas d'aller un peu plus vite. L'engagement du gouvernement devrait, par exemple, se traduire de manière beaucoup plus concrète dans la libération de fonds. Vous savez que, en tout cas, ce ne serait peut-être pas une raison qu'il va évoquer, mais l'une des raisons essentielles pour lesquelles l'abbé Malouane ne pouvait pas organiser les élections d'ici le 30 juin, c'est lié à l'argent. On a promis de l'argent, la communauté a promis de l'argent, mais cet argent vient un peu aussi à compte-gouttes. Le gouvernement, c'est à peine qu'il vient de libérer, je crois, 2 ou 3 millions de dollars. Vous voyez qu'avec ça, l'abbé Malumalu ne peut pas, même si on lui ajoute 6 mois ou une année, en tout cas dans le rythme où le gouvernement libère de l'argent pour l'organisation des élections, ou ne donne même rien du tout pratiquement, donc risque d'aller de prolongation en prolongation. Je crois que c'est une manière de dire au gouvernement, de placer le gouvernement devant ses responsabilités, qu'il doit mettre un peu plus de sa poche pour que l'abbé Malumalu n'ait pas de motif de demander, par exemple, la deuxième prolongation.
Oui, Benoît Kandéré, pour faire cette prolongation, ou bien même la deuxième, on imagine déjà des scénarios, des mixages, des mixtures, que l'opposition politique vienne faire peut-être un 1 plus 4 réaménagé, 1 plus 4 ou 1 plus 5 ou 1 plus 10. Comment vous pensez tous ces scénarios qui sont avancés par les uns et par les autres?
Je pense, c'est vrai, en faisant attention à l'aspect technique, l'aspect de l'argent et l'aspect même des textes, je vais revenir sur... il faudrait également faire attention à la vie politique. Il ne faut pas faire table rase, faire comme s'il n'y avait pas un problème. C'est vrai, il manque de l'argent, c'est vrai. Jusqu'à présent, on parle du référendum. Le référendum doit se faire sur base d'un texte qui, jusque-là, n'est pas encore là. Et déjà, on commence à en discuter, on dit non, c'est encore taillé sur mesure, ceux qui croient qu'ils vont gagner les élections font en sorte que déjà, ils aient tel...
C'est marocain adéquat.
Voilà. Et peut-être que ça peut se retourner contre eux, au cas où ils ne gagnaient pas le poste qu'ils cherchaient. Mais enfin, on n'est pas encore là. Mais il faudrait également, à mon sens, ne pas faire preuve de cécité politique. Parce que beaucoup de nos hommes politiques croient qu'on peut, comme ça, travailler en fermant les yeux, en croyant, avec arrogance d'ailleurs, que rien ne va se passer. J'ai vu hier le déploiement qu'il y a eu à travers la ville de Kinshasa. Moi, j'ai posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'était en fonction, en rapport avec ce
qui s'est passé au Parlement.
Tout à fait. C'est-à-dire que, quelque part, on tient compte de l'opinion, on tient compte de ce qui se passe dans la ville. Et ce serait une erreur que de ne pas en tenir compte. Il faille que, dès maintenant, on commence à prendre langue, pourquoi pas, avant le 30 juin. Et bon, ne nous cachons pas les choses. Les choses ne s'étaient pas passées comme elles devaient se passer dans la composante dite opposition politique.
Non armée.
L'opposition politique non armée. La composante dite, parce que il y en a qui disent que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est pas l'opposition politique non armée. C'est même pour ça qu'on l'appelle plutôt la composante dite opposition politique non armée. Alors, qu'on se voile la face en disant que non, ils sont là, ils n'ont qu'à s'arranger entre eux, ils n'ont qu'à, ce serait dangereux. Il faille qu'on tienne compte de ça et qu'on rectifie le tir s'il le faut. Pourquoi pas?
Oui, Eric Adjemba, est-ce que pour vous, la réelle politique veut que on aménage absolument le 1 plus 4?
Non, bon, moi je ne pense pas que ce soit là le problème, parce que si on dit qu'on aménage le 1 plus 4, c'est que on revient à un aménagement de fond. Et moi je crains justement qu'avec ça, on perde encore le temps, qu'on aille, qu'on cherche encore une espèce de discussion, etc. Moi je suis pour que les gens dialoguent justement dans une réunion du genre séminaire interinstitutionnel, donc une réunion tout à fait informelle où les gens peuvent encore réfléchir, savoir ce qu'on fait. Mais je pense qu'on peut encore continuer avec le 1 plus 4, mais en essayant de voir un peu du côté des animateurs, c'est bien possible. Mais pour moi, s'il faut recommencer, et toucher au 1 plus 4 vaudrait à retoucher à fond justement la Constitution, l'accord global. Et là, j'ai craint justement qu'on arrive à un bouleversement et qu'on dise qu'on parle d'un coup d'État constitutionnel, et ça serait encore grave. Je voudrais quand même capitaliser ce qu'a dit l'ambassadeur des États-Unis la fois passée. Je pense qu'on n'a jamais été aussi proche des élections dans ce pays que maintenant. C'est question maintenant d'affiner les stratégies, de faire en sorte que justement on accélère, et c'est possible qu'on y arrive au lieu de refondre les choses. Je pense qu'on n'est pas très 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 loin.
Oui, Félix Kabouizi, quand le président de la République annonce des consultations, quand le RCD d'Azarias Roubaix-Roi demande le dialogue pour éviter que ça dérape, qu'est-ce qu'il y a entre guillemets, qu'est-ce qu'il y a entre les lignes?
Non, je crois que c'est vraiment du réalisme politique. Hein. Nous l'avions bien dit depuis très longtemps que le problème autour du 30 juin était moins un problème juridique qu'un problème politique. Ce n'est pas que l'UDPS conteste sa signature. ce n'est pas non plus qu'il lit autrement hein, les dispositions de l'accord global inclusif en matière de prolongation. Tout le monde sait qu'il a été prévu de prolongation. Mais le problème, c'est que nous nous trouvons devant plusieurs problèmes. Le premier, c'est que en réalité, l'abbé Malumalu aura beaucoup de mal à justifier des raisons techniques pour solliciter la prolongation de la transition. Sincèrement, pas beaucoup de raisons techniques. La plupart des raisons sont liées soit au comportement du gouvernement durant les deux premières années.
Des raisons politiques.
Des raisons politiques. Le gouvernement a passé beaucoup plus de temps à se chamailler, à créer des crises. Ils n'ont pas joué le leadership exemplaire tel que l'accord global le dit au niveau de l'espace présidentiel. Les gens se sont mis des pots de banane durant plus de 8 ou 9 mois. Donc les raisons politiques. Il y a aussi, comme on l'a dit, des raisons financières. Vous savez que le budget prévu pour l'élection s'élève à autour de 430 millions de dollars. Je crois que si mes informations sont bonnes, on n'a pas encore réuni, en tout cas, la moitié de ces budgets. Il n'est pas encore réuni. Et au niveau du gouvernement, comme on l'a dit, le gouvernement, certains membres du gouvernement préfèrent se remplir les poches au lieu de dépenser de l'argent ou de budgétiser même l'organisation des élections. Donc il n'y a pas grand-chose que le gouvernement donne pour l'organisation des élections. Donc deuxième raison. Troisième raison, ce sont des raisons liées à la sécurité. Donc, tout ce qui se passe à Ituri, tout ce qui s'est passé il y a quelques mois à Bukavu, ce sont ces raisons-là qui font que on n'a pas du tout beaucoup évolué au niveau de l'organisation des élections. Si on envisage de coupler la prolongation de la transition, la prolongation éventuelle de la transition avec un réaménagement de l'architecture institutionnelle, à mon avis, ce serait sage. Pourquoi ? Parce que on ne peut vraiment pas s'expliquer qu'on laisse au bord de la route des grandes formations politiques pour la deuxième phase de la prolongation de la transition.
Comme l'UDP, comme c'est l'UDP, c'est le Palou.
L'UDP, c'est le Palou, d'autant plus que la première fois, en fait, on les a écartés. Enfin, ou, en tout cas, ils ne se sont pas retrouvés là-bas dans une sorte de tricherie politique. Donc, je pense que maintenant que l'UDP et le Palou manifestent leur intention d'entrer dans les institutions, je crois qu'il faudrait nécessairement qu'on puisse ouvrir cette brèche, faire en sorte que les élections ne soient pas non plus contestées, puisque si ces gens sont en dehors des institutions, ils auront de bonnes raisons pour contester les élections. Et là, on peut encore relancer la crise.
Oui, Benoît Kambéré, vous pensez qu'il y a de la place dans les taxibus ou bien il faut encore faire descendre quelques-uns?
S'il faut faire descendre quelques-uns, pourquoi pas? Pour que les choses marchent mieux. Parce que si quelqu'un, pour prendre ta belle image, si quelqu'un a fraudé pour entrer dans le taxibus, moi je pense que ce serait juste et correct de le faire descendre. C'est un fraudeur, un tricheur, et on fait entrer d'autres pour que le taxibus marche mieux. Parce que si jamais on continue à se chamailler dans le taxibus, ça ne va pas non plus. Il vaut mieux que ceux qui vont entrer dans le taxibus ne soient pas là pour faire traîner les choses, mais pour qu'on arrive à l'objectif, c'est-à-dire que le taxibus arrive à temps à son objectif. Moi, je pense que ce ne serait que justice que ceux qui se cramponnent dedans en ayant triché, qu'on les descende et qu'on prenne d'autres pour qu'on y aille. Pourquoi pas?
Oui, Eric, cette expression du taxibus, vous pensez que le chauffeur va mettre le pied sous l'accélérateur pour que ça aille un peu plus vite?
Je pense que le problème, c'est au niveau de la démarche. Quand Benoît dit qu'il faudrait que tout le monde rentre dans le taxibus, je pense que là, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de fermeture, justement, pour qu'on n'y entre pas. Mais le problème, si c'est un problème, justement, de pouvoir, si on veut aussi rentrer dans les taxibus pour faire la même chose que les autres, alors là, ça ne va pas. Et est-ce que s'il faut rentrer dans les taxibus pour changer, disons, à fond, ce qui est déjà là, là aussi, c'est une difficulté. Et je pense qu'il faudra essayer de trouver une démarche qui privilégie les chemins de la paix, c'est-à-dire que tout le monde participe à la gestion de la transition, encore que on avait déjà demandé à l'UDPS de rentrer dans la gestion, peut-être que c'est ce qu'on lui a proposé qu'il ne plaisait pas, mais il y a toujours moyen de discuter pour qu'il rentre, mais c'est pas pour bouleverser tout ce qui est là. Je crois que ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la pression, je pense qu'il faudrait que la population l'exerce de son droit, parce qu'il a été établi justement que les acteurs politiques ont passé le temps en train de se servir, en train de se chamailler. On a, disons, soulevé des cas de corruption et autres. C'est normal que la population puisse justement dénoncer cet état de choses, puisse essayer de pousser encore pour qu'on accélère. Et puis, et là, je suis d'accord avec Benoît, qu'on puisse débarquer les gens qui ne méritent pas, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont corrompues ou encore qu'ils gèrent mal, qui font la gabegie financière. Et là, c'est un problème d'individu, mais les composantes, c'est aux composantes de les relever, c'est leur esprit de l'accord global et inclusif.
Félix Kabuzi, pression, ne veut certainement pas dire qu'on doit casser, qu'on doit...
Non, je crois que ce serait totalement condamnable. Je crois que des partis politiques sérieux ne peuvent pas appeler leurs militants à faire la casse. En tout cas, s'ils le faisaient, c'est s'exposer. Ils s'exposeraient certainement à la rigueur de la loi. Moi, je crois qu'il s'agit plutôt d'une pression pour obtenir, comme vous avez dit, la consultation ou les négociations. Et je crois que la réponse du président de la République et même la proposition du vice-président Roubérois à ce titre-là est tout à fait sage. Je crois que si on ouvre les consultations... Pourquoi, par exemple, je me suis toujours posé cette question, pourquoi on n'a jamais vu régulièrement dans notre pays le président de la République recevant des hommes politiques comme M. Tshisekedi? Est-ce que vraiment vous pensez qu'ils n'ont pas des choses à se dire entre leaders politiques? Pourquoi on verrait mal que le président de la République consulte Antoine Gizenga pour connaître son point de vue, le point de vue du Palou par rapport à l'élaboration de la Constitution? Moi, je crois que très sincèrement, il n'y a même pas à débattre là-dessus. Ça devrait être un exercice normal, tous les 3 mois, tous les 2 mois, où chaque fois que le besoin se fait sentir, le président de la République devrait rencontrer les leaders, comme on dit, historiques de l'opposition, connaître un peu leur point de vue, avoir même leurs propositions. C'est ça aussi le rôle du chef de l'État. Donc je crois que la consultation ou comme on a dit l'évaluation, ce sont des exercices qui doivent se faire régulièrement en démocratie. Le problème c'est que chez nous, nous apprenons la démocratie malheureusement
sur le tas
et avec toujours des agendas cachés. Vraiment avoir une consultation entre le président de la République et Étienne Tshisekedi, ça va même décrisper. Le simple fait de les voir bavarder 2-3 heures et puis ils accordent des interviews, ça va décrisper la situation politique, même s'ils ne trouvent pas de terrain d'entente, ils n'auront jamais de terrain d'entente sur tous les points. Donc je crois qu'il faut nécessairement encourager ça. Nous, je condamnerai de manière tout à fait ferme des partis politiques qui appelleraient les gens à manifester pacifiquement. Oui, ça c'est tout à fait normal, il faudrait qu'on...
Mais pas avec violence.
Non, pas avec violence. C'est-à-dire si des gens veulent... Le 29, par exemple, organiser une marche pacifique pour demander qu'on accélère le processus, ça, on doit le leur garantir. Mais si on distribue, je ne sais pas, on forme des groupes pour casser, ça, la loi devrait nécessairement s'en occuper.
Benoît Cambéré, en rapport avec ce que vient de dire Félix Kabuzi, qu'est-ce qui empêche ce genre de rencontre?
Je me pose vraiment la question. Parce que, à titre d'exemple, j'ai vu défiler ici à Kinshasa pas mal de personnalités étrangères. Et toutes ces personnalités ont toujours fait le tour des hommes politiques congolais.
En passant par Limité.
En passant par Limité, pourquoi pas? Et moi, je me demande pourquoi, chez nous, chacun doit se rester dans sa tour d'ivoire. J'ai apprécié un moment quand le président de l'Assemblée nationale, Olivier Kamitatou, est allé rendre visite au président Étienne Tshisekedi. C'est une très bonne chose. Et comme l'a dit Félix Kabuzi, ce serait aussi une très bonne chose que le chef d'État, pourquoi pas, aille échanger avec ces leaders historiques comme il les a appelés. Ils ont non seulement l'expérience, ils ont le chef de l'État aurait beaucoup à apprendre d'eux. Et pourquoi pas, et avec l'aura qu'ils ont sur la population, surtout de Kinshasa, ce serait vraiment décrisper la situation.
Nous passons au grand livre de la République, la Constitution. Des voix s'élèvent pour dire que certains essayent de se tailler un costume sur mesure qui, finalement, sur les épaules d'un autre, pourrait flotter. Est-ce que vous pensez que nous sommes toujours dans ce système où chacun voit juste ce qui va se passer demain et non pas après-demain? Eric Adjemba.
Oui, je pense justement que ce qu'on est en train de reprocher justement à toutes les composantes et entités, c'est qu'ils sont en train justement de tailler sur leur mesure la Constitution. Et il suffirait de voir un peu, par exemple, au niveau de grandes options comme les régimes, vous verrez que chacun essaie de trouver un régime qui l'arrange par rapport à juste après les élections, donc la période possessoire, donc sur leur avenir politique. Et c'est là ce qui gêne un peu. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils comprennent comprennent que la Constitution, elle est là pour toute la nation, que ce n'est pas pour eux-mêmes, et qu'il faut travailler sur la durée au lieu de travailler justement sur le court terme par rapport à leurs intérêts. Et je pense que les voix qui s'élèvent ont tout à fait raison de s'élever. Il faudra qu'ils fassent preuve justement de la rédaction d'une constitution pour le pays et pour l'intérêt de tout le monde. Sinon, on va encore retomber dans ce qu'on a vécu pendant tout ce temps. Donc il faudra un certain équilibre et ne pas avoir une constitution qui arrange les uns et qui n'arrange pas les autres. Et là, il faut voir le peuple en face, autrement, ça sera le chaos.
Oui, Félix Kabouzi, apparemment, l'Assemblée nationale, tout comme le Sénat, avait choisi le système semi-présidentiel. Mais qu'est-ce qui gêne? C'est ce régime ou bien le contenu qu'on veut lui donner?
Bon, je crois que jusque-là, on n'a pas encore sous la main le projet, l'avant-projet, tel que élaboré par la commission politique, administrative et juridique de l'Assemblée nationale. Mais le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme, c'est le vice-président Elias Rouberoy. Il y a une semaine, intervenant dans les journées, plutôt aux journées, lors de l'ouverture des journées scientifiques à l'université protestante, il a dit que l'avant-projet de constitution tel que élaboré par cette commission-là de parlement proclamait, si vous voulez, de manière théorique, qu'on allait, disons qu'on proclamait le semi-présidentiel, le régime semi-présidentiel, alors que dans le fond, les textes prévus ressemblaient beaucoup plus à un régime présidentiel.
Présidentiel fort.
Présidentiel fort. Il a même parlé de présidentiable et il a même dit qu'on risquait carrément de revenir vers une nouvelle dictature. Donc nous n'avons pas, malheureusement, jusqu'à cette heure ici, tous les articles. Mais ça paraît vrai puisque deux jours après, le CIAT a réuni les députés membres de cette commission pour traduire les mêmes inquiétudes. Et au niveau même de la communauté internationale, des gens élèvent effectivement leur voix pour dire que on risquait de rater complètement l'élaboration de la Constitution en donnant beaucoup plus de pouvoir au président de la République. Donc je crois que ce qui cloche autour aujourd'hui de la Constitution serait lié au régime politique, puisque comme on l'avait dit la fois passée, au niveau de la forme de l'État, ils ont trouvé, semble-t-il, un compromis, en tout cas qui satisfait plus ou moins les unitaristes fortement décentralisés et les fédéralistes. C'est maintenant au niveau du régime politique où le problème se pose, on a l'impression, disons...
Surtout pour l'attribution des pouvoirs.
Pour l'attribution du pouvoir, oui, pour l'attribution du pouvoir, les amis du PPRD pensent que leur candidat pourrait éventuellement gagner les élections présidentielles, l'élection présidentielle, et qu'il faudrait, à partir de ce moment-là, qu'on lui donne beaucoup plus de pouvoir, c'est-à-dire que le chef de l'État devrait définir et conduire la politique de la nation, que le chef de l'État devrait pouvoir nommer, révoquer le Premier ministre, les ministres et tout le monde.
Dissoudre le Parlement.
Dissoudre le Parlement est beaucoup plus grave qu'il serait politiquement irresponsable. C'est-à-dire, même si les choses ne marchent pas, bon, le Parlement ne peut pas l'interpeller. Mais là, nous sommes rentrés complètement dans le système de la Deuxième République. Et là, on peut être sûr que ça va susciter de nouvelles rébellions. Donc je crois qu'il est temps que les députés comprennent qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de concentrer tous les pouvoirs entre les mains du chef de l'État, élu soit-il par l'ensemble de la population. Il faudrait qu'on ait un pouvoir, en tout cas qui soit suffisamment équilibré, qui soit partagé, et que toutes les institutions aient la possibilité de se contrôler mutuellement. Donc je crois que le problème cloche à ce niveau-là. Nous espérons qu'au niveau de la plénière du Parlement, les gens prendront conscience qu'il n'est pas bon, en tout cas qu'on revienne à la dictature que tout le monde a décriée.
Oui, Benoît Kambéré, même en suivant aujourd'hui Radio France Internationale, on semble épingler le PPRD et pourtant, au niveau du Parlement, c'est une mouture des composantes et entités. Comment donc ce parti fait-il pour imposer sa religion aux autres?
Ben, écoute, moi je n'étais pas dans les secrets des dieux, mais je passais quand même de temps en temps par l'hôtel intercontinental. Il paraîtrait que je n'ai pas de précision. Il paraîtrait que des enveloppes auraient circulé à l'hôtel intercontinental. Et c'est assez dommage quand même.
Oui, Eric Kadiemba, vous pensez que ce sont les dessous des tables qui recommencent à piloter la politique congolaise?
Non, je m'excuse, je n'ai pas entendu la question.
Est-ce que vous pensez que c'est un problème de dessous des tables, d'argent, d'influence qui finalement pilote à la construction de cet avant-projet de constitution?
Je ne peux pas le dire parce que bon, je n'ai pas de preuves, mais je sais que dans des situations comme ça, on sait que par exemple la composante avec le gouvernement a des alliances. C'est normal que si une fois il combine toutes ces alliances, c'est possible qu'il puisse influencer les choses. Mais ça serait vraiment dommage si les relations a pu circuler. Ce serait vraiment dommage parce que nous sommes en train tous de décrier la corruption. Mais si on en a des preuves, je pense que ce sont des choses à dénoncer. On sait que le PPRD, avec une phrase de la société civile, il compose bien. Je sais qu'avec une partie de l'opposition politique, ils composent bien. Ils peuvent faire jouer cela et arriver justement à s'imposer. Mais je pense ici qu'il devrait plutôt, comme l'a dit Jean-Marie Guénot, essayer de faire une sorte d'équilibre pour que justement on ne puisse pas tailler sur mesure cette conscience qui est la loi des lois, je rappelle, et qui va justement conditionner tout notre avenir et même des générations futures. Et on doit, c'est une question de responsabilité, je pense.
Oui, Félix Kabouzi, vous pensez que le PPRD, parce qu'on parle de lui, va mettre de l'eau dans son vin pour que s'il y a des réaménagements à faire dans cet avant-projet de constitution, que ce soit fait assez rapidement pour ne pas perdre du temps.
Mais le risque, c'est que si on maintient d'une manière ou d'une autre la concentration du pouvoir entre les mains du chef de l'État, le risque est que le projet de constitution, comme Benoît Cambert l'a dit, peut être rejeté par la population. Je ne vois vraiment pas au jour d'aujourd'hui quelle population au Congo accepterait une forme de retour de la dictature. Vous savez qu'on a mis presque 40 ans pour chasser Mobutu du pouvoir. Mobutu parti, Laurent Désiré Kabila est arrivé, il a reconduit la dictature. Et c'est ce qui a créé encore une nouvelle guerre. Donc on n'a pas du tout besoin aujourd'hui de système où un individu arrive au pouvoir, il ordonne l'arrestation des leaders politiques, Tshisekedi a été relégué, vous savez, à la fois sous Mobutu et même sous Laurent Désiré Kabila. On a supprimé les partis politiques ici, alors qu'en 1997, nous étions déjà très avancés. On a dissous les institutions. Il y avait le Haut Conseil, le Parlement de transition, le Haut Conseil de la République, le Parlement de transition. On a concentré le pouvoir entre les mains d'une nouvelle classe politique et on a mis de côté des gens qui étaient ici. Donc vous voyez que tous ces éléments-là, qui rappellent la dictature, qui rappellent la concentration d'un homme fort au pouvoir, ça, notre peuple n'est pas prêt à l'accepter. Je crois qu'il est dans l'intérêt du PPRD de faire en sorte que, enfin, pas seulement du PPRD, de l'ensemble des composantes, de faire en sorte que nous ayons un pouvoir équilibré, que nous ayons un chef de l'État, même s'il est élu au suffrage universel direct, il n'est pas normal qu'il concentre seul, entre ses seules mains, l'essentiel du pouvoir politique, ce n'est pas possible. Donc je crois que c'est dans l'intérêt de tout le monde. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler que c'est ce qui est prévu dans l'accord global inclusif. Dans l'annexe de l'accord global inclusif, il a été bien spécifié qu'on devrait instaurer au pays un régime, en tout cas selon les standards internationaux, un régime qui tienne compte de la séparation du pouvoir, un régime qui tienne compte de la garantie, n'est-ce pas, d'offrir à la population, en tout cas, la démocratie. Donc on ne peut pas faire ce recul-là, ce serait complètement irresponsable. Et je suis certain qu'ils donneront tous les éléments entre les mains de ceux qui mèneront campagne contre ce projet de constitution. Et le risque, c'est que le projet risque d'être effectivement rejeté par la population.
Oui, Benoît Cambéré, un autre point qui fait tiquer plusieurs personnes, c'est ce qu'on appelle la vacance du pouvoir. Il y a un flou artistique. On ne sait pas qui doit vraiment remplacer le président de la République en cas de vacances. C'est toujours cette façon d'essayer d'avoir le pouvoir pour son camp.
Encore une fois, et c'est malheureux. C'est assez dommage que, malheureusement, en toile de fond, il y a toujours soit une composante, soit une personne. On pense encore que, Paul, on risque d'avoir des surprises. Tous les calculs qui sont en train de se faire, on risque d'avoir des surprises. La première surprise serait que, d'abord, que cette constitution soit rejetée. Et qu'est-ce qu'on ferait là? Est-ce qu'on avancerait? Déjà, la pression fait qu'il faut qu'on organise les élections le plus vite, le plus tôt possible. Mais maintenant, si on rejette la constitution, et si ces candidats qu'on croit déjà passés perdent les élections, qu'est-ce qui va arriver? Il faut tenir compte de tout ça. Vous taillez sur mesure un costume, tu l'as dit, Paul, et après c'est quelqu'un d'autre qui le porte.
Je porte.
Ah ben, vous êtes cuit, là. Vous êtes cuit. Tel est le prix qu'il croyait prendre. On peut échafauder des plans, mais quand le peuple se... Mais on a vu sous Mobutu, avant que Mobutu ne parte, Tata Bo, Moko et tout, mais quand Mobutu a été désavoué, qui l'a cru?
Comme,
qui l'aurait
comme,
cru?
Vous avez dit un fruit mûr ou pas mûr devant l'ouragan de l'histoire, il tombe comment?
Il ne croyait pas si bien dire.
Pour lui-même.
Ah oui. Ce qui peut arriver pour ceux qui sont en train d'échafauder de plans en raison de leur avenir politique ou en raison des intérêts de leur famille politique. Ils risquent d'être surpris et désagréablement surpris.
Voilà, Eric Kadiemba, nous passons aux affaires. Le gouverneur Boulaïmou suspendu. Est-ce qu'il y a... Vous pensez que l'affaire a été bien menée, il y avait des choses vraiment à lui reprocher, parce qu'on a vu il y a quelques jours des gens brûler des pneus en disant pour qu'on l'enlève et tout et tout. Est-ce que vous qui êtes à Bukavu, vous sentiez venir cela?
Oui, depuis beaucoup de temps déjà, il avait été appelé pour consultation à Kinshasa. Il y avait ce rapport accablant du vice-gouverneur chargé de finances. Bon, nous, comme journalistes, on a essayé de fouiner partout pour retrouver un peu ce qui lui était reproché. En tout cas, c'était très grave et on se disait, on ne sait pas s'il pourra échapper justement à cette enquête qui, au fait, a été diligentée. Et voilà, moi, personnellement, ça ne m'étonne pas et je pense même que Kinshasa a laissé flotter les choses et que, bon, il est venu, mais comme disent les gens ici, il vaut mieux tard que jamais. Mais c'était une situation qu'on pouvait déjà prévenir parce qu'après ça, il y a eu d'autres situations qui n'étaient pas très bonnes du tout. Et donc, ça ne nous a pas surpris. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques temps, il s'est attaqué à la presse. On a senti qu'il a été très, très maladroit. Et je pense que tout cela, mis ensemble, en tout cas, il ne pouvait pas échapper.
Oui, Félix Kabouzi, à 2000 km de là, c'est pas ce qui se passe, vous étonne. Le gouverneur Tshatshali Tumba est épinglé par la commission de l'éthique et de lutte contre la corruption en parlant de la route Kalankala, une route de 1622 mètres, donc 1 km 600 sur 11 mètres, qui aurait coûté, d'après le gouvernorat, 6 400 000 $, d'après les experts qu'a mandaté la CLC, cette route n'aurait pu coûter que 2,5 millions. On parle également de 175 000 sacs de ciment qui auraient été préfinancés et fabriqués, mais 42 000 sacs auraient été utilisés par des tierces personnes. On parle de l'achat de 44 véhicules qui auraient été neufs, mais après contrôle, certains étaient vieux. Ça vous surprend cela?
Bon. En tout cas, ces informations ont été livrées d'une manière ou d'une autre à la presse par la commission chargée de l'éthique et de la lutte contre la corruption, dont le président a séjourné à Matadi. Donc, on ne peut pas d'emblée remettre en cause, n'est-ce pas, les résultats du travail de cette commission. Mais c'est vrai qu'en matière de justice, il faudrait toujours que la justice elle-même établisse la culpabilité, mais il s'agit d'un rapport qui a été élaboré par une commission mise en place par le pays et qui est chargée de la lutte contre la corruption. Si on pouvait présumer de la véracité de ce rapport, moi je devrais on devrait se poser la question pourquoi on frappe Boulaïmou et on laisse le gouverneur Tshatshali Tumba. Ce serait complètement inconcevable. Dans tous les cas, je pense que c'est une information qui circule dans plusieurs milieux à Kinshasa et je ne serais pas surpris que d'ici là, un audit soit entrepris pour savoir effectivement à quoi ça rime. Mais alors, s'agissant du gouverneur de
Bakongo,
du Sud Kivu, franchement, j'ai comme l'impression que le Sud Kivu n'a pas de chance. Le Sud Kivu n'a pas de chance avec Boulaïmou, puisque normalement c'est quelqu'un qui aurait dû déjà être suspendu au mois de décembre ou janvier. Déjà à ce moment-là, on lui reprochait la mauvaise gestion, une certaine incompétence, et ainsi de suite. Et il avait été convoqué ici, où il avait passé, je crois, presque un mois et demi.
Oui.
Et à l'époque, d'ailleurs, beaucoup de sources l'avaient dit, déjà à l'époque, on envisageait de le révoquer. Il y a eu une forte intervention du vice-président Zaïdi Ngoma, qui s'est battu bec et ongle. Et la chance, c'est qu'à ce moment-là, le président de la République était à conflit ouvert avec les MLC. Donc on ne pouvait pas engager deux crises au même moment. C'est ainsi qu'on avait préféré peut-être lui prodiguer des conseils, lui donner une nouvelle chance, mais il est revenu pour recommettre la même chose. Donc je me dis, mais est-ce que vraiment le Sud Kivu qui est une région normalement qui devrait être aujourd'hui en pleine reconstruction, puisque c'est l'une des régions avec l'Ituri, en tout cas qui ont vécu les affres de la guerre, mais voilà, on lui envoie quelqu'un qui n'est certainement pas le meilleur fils du soutien. C'est vraiment dommage, puisque lors des tractations pour la nomination du gouverneur du Sud Kivu, il y avait au moins trois candidats qui étaient en bonne place. Il y avait le sénateur Chirayiwa, que l'IRCD avait récusé, estimant qu'il avait un discours peu rassembleur. On avait proposé par la suite l'ancien vice-ministre Paul Moussafiri, qui est aujourd'hui ministre de l'Agriculture. C'était, semble-t-il, un candidat qui aurait pu faire... qui aurait pu faire l'équilibre. Mais là aussi, ça n'a pas été possible de le nommer. Et finalement, on a pris quelqu'un, d'abord que les gens du Sud Kivu ne connaissaient pas. En tout cas, je me rappelle toujours du reportage de Radio Okapi le jour de la nomination de Boulaïmou. Sophie Badera disait qu'elle a circulé dans toute la ville pour dénicher la seule personne qui pouvait lui brosser le cursus, le parcours politique ou même intellectuel de Boulaïmou. Elle n'avait trouvé personne. Donc voilà, on a sorti un oiseau rare, mais cette fois-là, qui n'a pas été du tout à la hauteur des espérances de cette région. C'est franchement décevant pour cette région.
Oui, rapidement, le commentaire de Benoît Cambéré pour terminer cette émission sur ces deux affaires.
Ben, je ne voudrais pas revenir sur ce qui s'est dit sur le Sud Kivu. C'est quand même assez dommage ce qui est arrivé. Mais je voudrais plutôt dire un petit mot sur ce qui se passe au Bas-Congo. Et peut-être dire encore une fois que c'est un problème de règlement de compte. Parce qu'il y en a qui ont parlé de règlement de compte entre composantes en ce qui concerne le Sud Kivu. Et que le gouverneur du Bas-Congo, qui aujourd'hui est épargné, on sait très bien de quelle composante il est. Et on sait très bien que... entre composantes, maintenant, on se ménage en vue des élections. Ce serait dommage. Il faudrait que la loi soit appliquée. Et appliquée à temps, parce qu'il ne faudrait pas...
Applicable à tous.
À tous. Je ne vois pas pourquoi on doit ménager certains et frapper d'autres. Ce serait bien que le Bas-Congo a le droit. Et pour parler de la commission de lutte contre...
l'éthique et la lutte contre la corruption.
Lutte contre la corruption. Elle est dirigée par un fils du Bas-Congo, un opérateur économique connu du Bas-Congo. Et il connaît très bien le problème qui se passe. Et ce serait normal que le ministère de l'Intérieur, d'abord, suspende le gouverneur du Bas-Congo, et diligente une enquête, parce que ça fait longtemps qu'on parle de ce problème, la commission a déjà fait son travail, parce qu'il est d'une certaine tendance politique, on le ménage, non, il ne faut pas deux poids deux mesures, c'est très mauvais et très malsain.
En tout cas, moi je vais vous remercier de ne pas avoir eu de tendance, je remercie d'abord Eric Kadjemba qui est à Bukavu. Eric, bonsoir au Sud Kivu.
Bonsoir Paul.
En tout cas, merci beaucoup aussi à Benoît Cambéré. Merci à Félix Kabouzi qui est de la Référence Plus avec eux. Nous avons essayé de passer en revue l'actualité brûlante de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres éditions du Dialogue entre Congolais. I'm